La libre antenne d'Europe 1. Yann Moix accompagne vos nuits.
Chère Elisabeth, bonsoir.
Oui, bonsoir. Yann Moix.
Comment ça va?
Écoutez, ça va très bien, merci beaucoup.
Ah bon, bon, au revoir alors. C'était un plaisir de vous parler. Bonne soirée. Alors, je suis en ligne avec... Alors, que puis-je faire pour vous, Elisabeth?
Écoutez, je voulais apporter un message oui. par rapport à l'alcoolisme. J'ai entendu durant les semaines passées des gens qui souffraient d'alcoolisme, ce qui est mon cas aussi, et qui étaient forts dans un désespoir. Donc, je tenais à apporter du soutien par mon parcours, en expliquant un peu mon parcours et dire que tout n'était pas désespéré. Voilà, par ces quelques mots.
Je vous écoute.
D'accord. Alors, je souffre d'alcoolisme depuis 10 ans. J'ai connu de nombreuses rechutes. J'ai passé ma première cure à 10 ans, donc en hospitalisation, qui a fonctionné durant 3 ans d'abstinence. Et puis après, l'envie d'alcool est revenue. Et à ce moment-là, je suis retournée hospitalisée vu que j'avais rebu. J'étais quand même à une bouteille de vodka par jour. J'avais fait un burn-out de travail. Enfin, c'était un peu un tout et qui m'avait amené des angoisses et de l'alcoolisme. Et donc, j'ai été hospitalisée au total à 12 reprises. Mais ces 12 reprises ont été longues, mais m'ont apporté beaucoup. Donc, je reviens en arrière. Et mes premières cures ont été assez compliquées. Ça a toujours été volontaire de ma part. J'ai toujours demandé à rentrer en cure. J'ai même ma famille qui a poussé non plus, ce qui était plus compliqué alors pour certaines personnes. Les premières cures ont été assez compliquées. À mesure où je ressortais, je rebuvais directement, en cachette évidemment. Mais bon, mon mari le voyait, c'était hyper flagrant. Et malgré tout, je cachais quand même les bouteilles. Donc il y a une forme de culpabilité derrière aussi qui s'installe. Puis j'en ai fait 4, 5 sans succès. Je rechutais dès que je rentrais. Enfin, c'était très désespérant. Je voyais plus du tout le bout du tunnel, je n'en sortais plus, j'ai fait des tentatives de suicide, enfin, c'était vraiment très très compliqué. Et puis tout doucement j'ai commencé à... Déjà une chose qui était très importante, c'est que mon mari a compris ma détresse et en comprenant ça je culpabilisais un beaucoup moins, donc je buvais moins. Et deux, ça m'a aidé aussi à me gérer. Il m'aidait à me gérer en partie. Donc les cures à ce moment-là ont commencé à se passer un petit peu pour avoir arrivé quand même à 2 ans d'abstinence il y a encore une petite année à peu près. Et là, j'ai rechuté 2 fois celle-ci, dont cette fois pour l'instant où je suis en cure actuellement, donc en hospitalisation. Pour l'alcool, entre autres, et pour des angoisses. Et je sors normalement d'ici à peu près 1 semaine ou 2.
Donc là, vous êtes où techniquement?
Là, je suis hospitalisée pour l'instant.
Donc vous nous appelez depuis un hôpital, là?
Exactement.
D'accord.
De Belgique, depuis l'hôpital.
D'accord, on en profite pour dire bonjour à nos amis belges, comme on dit.
Voilà.
Ce mal-être... ces angoisses dont vous parlez, est-ce qu'elles vous semblent venir de très très loin ou est-ce que c'est des angoisses que vous avez eues sur le tard?
Ou est-ce que vous avez ça plutôt... C'est des angoisses qui sont apparues vers l'âge de 18 ans, mais qui sont des angoisses de type plus flottante, c'est-à-dire qui n'ont pas de relation avec des événements. J'ai des angoisses, je me lève le matin, j'ai des angoisses. Bon, maintenant j'ai un traitement, j'en ai beaucoup moins. Mais c'était vraiment des angoisses qui ne venaient pas d'un mal-être conjugal ou au travail.
Il n'y avait pas de cause claire, quoi. Il n'y avait pas de déclencheur conscient.
Non, pas du tout.
Mais
pas du tout.
C'est-à-dire, quel genre d'angoisse? Est-ce que vous pouvez décrire exactement ce que vous ressentiez en vous levant, par exemple?
Oui, bien sûr. Alors bon, bah, je me levais, j'avais déjà l'impression d'avoir un peu la tête qui tournait. Je travaillais, j'allais travailler, J'avais évidemment une grosse boule au ventre d'angoisse, ce qui m'empêchait de respirer assez facilement, même si ce n'était pas visible. Et le plus particulier, je dirais, c'est une forme de désincarnation du corps, dans le sens où j'avais l'impression que... comment expliquer ça ?
Un phénomène de déréliction ?
Oui, voilà, un petit peu, tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Et ça, c'était le plus gênant, je vais dire, dans mes angoisses. Et puis, ça ronge, ça bouffe de l'intérieur, donc c'est très, très fatigant aussi. Mais voilà un peu l'ensemble des globalités. Et c'était le matin, en me levant, où je sentais vraiment que c'était là, présent.
Ce qui est étrange, ma chère Elisabeth, hein, dans votre cas, enfin étrange, c'est que ces angoisses sont apparues pile au commencement de l'âge adulte.
Tout à fait. Mais il faut savoir que je me suis droguée étant jeune, avec des drogues dures.
De quel âge à quel âge ?
De 14 à 18.
D'accord.
Et donc j'ai toujours été polyconsommatrice, je vais dire, à l'époque. Et dépendante, on va dire, depuis ma jeunesse.
Certes, donc, mais excusez-moi, mais si vous preniez à 14 ans des drogues, comme vous dites, dures, c'est que manifestement, vous étiez déjà à cette époque habité par des angoisses.
Tout à fait.
Vos angoisses ne remontent pas à 18 ans, mais à 14.
À 14, effectivement.
Et si à 14, vous preniez des substances, c'est que manifestement, il y a des problèmes qui ont ressurgi à 14 ans, qui étaient eux-mêmes plus anciens.
Tout à fait, il y avait un mal-être certain, c'était festif à mon sens à l'époque, mais ça n'était pas du tout.
Non, bien sûr, c'est un cache-sexe.
Tout simplement, voilà, exactement.
Et quel genre d'enfance vous avez eu ? Comment ça se passait chez vous dans la famille ?
Écoutez, une enfance très facile jusque l'âge de 10 ans. Ça, vraiment, un père qui voyageait beaucoup, mais sinon, tous les deux étaient très présents. Et puis, un divorce à 10 ans, mal vécu, mal expliqué, mal vécu par l'enfant que j'étais. Et par conséquent, à l'époque, on ne scindait pas une semaine sur deux. C'était beaucoup moins pour le papa, beaucoup plus pour la maman. Une maman qui part un peu dans la crise de la quarantaine, qui s'occupe moins, paradoxalement, de l'enfant que j'étais auparavant. Et par conséquent, un gros mal-être. Un gros mal-être à ce moment-là. Un sentiment d'abandon énorme.
Et dans vos relations amoureuses, comment s'est transformé ce malaise ? Vous étiez avec des petits copains, des conjoints qui ont compris ça ou qui ont aggravé en fait le phénomène d'addiction ?
Non, pas du tout. Mon premier compagnon, enfin petit copain je vais dire, je l'ai rencontré à 14 ans et on s'est séparés à 23. Il se droguait aussi, mais c'est plutôt moi qui l'ai tiré vers le bas.
Quelle drogue c'était ?
C'était du speed, de la cocaïne, les amphétamines, enfin tout ce qui était drogue un peu excitante.
Pas d'héroïne ?
Pas d'héroïne.
Oh, bah ça va alors. Non, je plaisante.
Non, mais ça va.
La cocaïne.
C'est moins grave.
Moi, j'ai la phobie des drogues. Je suis trop hypochondriaque pour ça. Mais s'il y a une drogue, je n'aime pas les drogues. Je suis même contre l'utilisation du cannabis, des joints. Enfin,
moi aussi.
Mais sans rien connaître aux drogues, celle qui me fait intuitivement le plus peur, ça a toujours été l'héroïne.
Oui, parce qu'apparemment, on est addict dès la première prise.
Exactement.
Donc c'est ça qui m'a fait très peur.
Mais ma remarque est totalement absurde, hein, puisque la cocaïne est tout aussi dangereuse et le LSD aussi. Mais l'héroïne me fait peur.
Oui, mais
j'ai vu Loury d'en prendre et ça lui a pas réussi.
Oui, je comprends.
Avec les hommes, à partir de cet homme avec lequel vous êtes resté jusqu'à 23 ans, ensuite vous avez. Votre compagnon. Est-ce qu'ensuite vous avez toujours été avec des compagnons qui avaient une tendance à s'intoxiquer ou au contraire des gens plus sains, avec des guillemets à sains ?
Bah, pas du tout, des gens parfaitement sains. Il n'y en a eu qu'un seul, c'est mon mari. J'ai rencontré à 23 ans et on est toujours ensemble.
Vous avez des
enfants ?
C'est
quelqu'un qui ne souffre... Non, on n'a pas d'enfants. J'en ai pas voulu, vu les pathologies que j'avais, je ne voulais pas en avoir.
D'accord. Donc, pardon, je vous ai interrompu. Votre mari, donc, vous disiez ?
Non, et donc mon mari n'est pas du tout addict à quoi que ce soit. Pas du tout. Et nos amis non plus. Nos amis proches, hein, après de plus loin peut-être, mais je ne connais pas d'amis proches qui aient des addictions, et mon mari, vraiment aucune.
Et...
Donc là, je suis très sécurisée à ce niveau-là.
Et donc lui, il a une sorte d'intelligence par rapport à vos déviances et vos abus. Il a réussi à avoir les choses en face avec vous.
Bien sûr, oui, tout à fait. Au départ, un peu plus difficilement, parce qu'il ne se rendait pas compte de la souffrance intérieure que je ressentais. C'est pas visible, c'est difficile à voir, c'est difficile à ressentir quand on n'est pas spécialement malade. Mais il a compris au bout d'un moment, et là, m'a vraiment été un soutien énorme. Parce qu'il contrôlait, par exemple, au début, je buvais, ben, je me cachais quand je buvais, je planquais les bouteilles, enfin, je crois que c'est assez classique.
J'ai un ami, son et père planquait contre... les bouteilles dans le cartable de ses enfants. Parce,
ah
que,
oui,
parce que la mère
on
avait...
On est prêt
avait,
à planquer n'importe où.
Ben, la mère avait trouvé toutes les cachettes, la dernière qu'il a trouvée, comme quoi... Non, mais comme quoi les grands alcooliques ont une imagination prodigieuse dans le cartable des enfants.
Oui, tout à fait. Je le conçois. Ça peut vraiment être partout, partout, partout. Dans la machine à laver, dans enfin, des
exactement,
choses auxquelles
oui.
quelqu'un de, voilà, de rationnel et non alcoolique ne pensera jamais. Maintenant, il trouvait régulièrement mes cachets soi-même s'il y avait pas mal de bouteilles échouées. Mais c'est vrai qu'on peut effectivement, la honte fait qu'on cache, qu'on culpabilise beaucoup, qu'on boit plus, et ça nous fait cacher vraiment des choses, mais n'importe où, c'est un peu surprenant, effectivement. Mais là, il a compris, et donc a été très très aidant pour moi, en m'aidant à... Bon, il avait compris que j'étais malade alcoolique, mais il m'avait dit, voilà, tu peux boire maximum une bouteille de vin par jour, pas plus. De toute façon, tu sais que tu prendras contact avec une hospitalisation, tu vas faire le nécessaire le lendemain, enfin, dès que j'avais rebu. Et tu te limites à ça, et surtout, tu ne mélanges pas les alcools, tu ne vas pas en acheter. Voilà. Donc, il y avait une sorte de, un peu de contrôle parental, on va dire, de mon mari, mais qui me faisait déculpabiliser, donc je buvais moins. Mais j'en cherchais encore l'ivresse, malgré tout, à cette époque-là. Pour vraiment oublier mes angoisses, oublier un mal-être.
Bah, vous avez dit quand même, vous venez d'utiliser une expression qui est quand même assez inouïe. Hein. Un contrôle parental de mon mari. Je ne vais pas vous faire
oui.
un dessin.
Non, tout à fait, mais c'était un peu... il faisait un peu partie, c'était comme un référent.
Oui, mais enfin, ce n'est pas n'importe quel référent. C'est-à-dire qu'un contrôle parental de mon mari, c'est une phrase qui va
oui.
très loin. L'expression
oui,
va loin.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais c'était vraiment le cas parce que moi aussi j'étais très loin à ce moment-là.
Pour une fille de divorcée, vous voyez quand même vers où on se dirige.
Tout à fait, je comprends le rapport. Je comprends tout à fait.
Est-ce que vous avez essayé la psychanalyse, vous, ou pas, ma chère Elisabeth?
Oui, bien sûr, je suis
Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné?
Bah écoutez, je suis toujours suivie par une psychologue depuis 5 ans,
ouais.
Et mon psychiatre depuis 5 ans aussi.
D'accord.
Et ça a donné que j'ai eu très très dur. Alors papa, il n'y a pas de problème, mais la période avec maman qui était très compliquée, je l'ai très mal vécu, vous l'avez bien compris.
Oui, oui.
Mais j'ai toujours eu très dur à la digérer.
Vos parents sont toujours de ce monde?
Oui, tout à fait.
Et vous avez parlé avec eux de tous vos problèmes?
Oui, mais ils ont très difficile à comprendre.
Pourquoi?
Ils se voient un peu la face. J'ai essayé. Avec mon papa, il n'y a pas vraiment de souci. Avec ma maman, ben, voilà, il y a des fautes de chacune des parties parce que, bon, elle voyait bien que je me droguais, elle sait faire aussi. Donc, c'était assez complexe. Et là, elle ne veut pas vraiment reconnaître certaines erreurs qu'elle a pu faire, même par maladresse.
Elisabeth,
oui.
Quel âge avez-vous?
42 ans.
Je peux vous poser une question pas très agréable?
Bien sûr.
Pourquoi vous dites mon papa et ma maman? Moi, ça m'angoisse, les gens qui disent papa, maman, dépasser l'âge de 15 ans, en fait. Non, mais je vous dis ça. Non, mais moi, ça m'hystérise, mais j'aimerais comprendre.
Ah.
C'est quelque chose qui m'a toujours énormément choqué. Et j'aimerais vraiment que vous m'expliquiez.
Je ne le dis pas toujours. C'est aléatoire. Souvent, je dis mon père, ma mère.
Mais qu'on dise papa ou maman à la personne quand on l'en face, d'accord, hein, bien sûr.
Oui, oui, tout à fait.
On
ne
va pas dire
oui,
père, comment allez-vous, mère.
Comme...
Non, mais je veux dire, c'est dire mon papa et ma maman à des tierces personnes quand on a dépassé 10 ans. ça m'a toujours fait étrange. Vous voyez, ça c'est très. C'est, je trouve ça, d'une certaine manière, ça dit une souffrance. Et c'est là que je l'entends, votre souffrance. En fait, je ne l'ai jamais mieux entendu que dans cette expression « mon papa et ma maman ».
Mais voilà, parce que j'ai très très dur donc à me détacher de ma mère et mon père, ben, on est très unis. Ma mère, j'ai vraiment eu très très dur à me détacher de
cette souffrance. Je ne vous demandais pas de changer, vous avez le droit de continuer à dire ça. Ne tenez pas compte de mes goûts. Hein. Moi, je suis totalement névrosé.
Merci.
Voilà. Je suis sans doute plus névrosé que tous ceux qui m'appellent, donc rassurez-vous.
Pas certain, j'ai peut-être gagné.
Ça, non. C'est moi qui devrais en fait appeler la libre antenne. Je le fais souvent peut-être. Sur RTL, mais sous un faux nom. Je pollue l'antenne d'Olivier Delacroix, mais je déguise ma voix. Je me fais passer pour un bègue qui a l'accent marseillais.
Oh, vous êtes sympa.
Bonjour, mon cher Olivier, c'est encore moi.
Non, tout à fait. Et donc, non, je les appelle papa, maman, mon père, ma mère, ça varie. Même pour digérer, entre guillemets, la période avec ma mère qui était compliquée et pour ne plus avoir de douleur par rapport à ça et face à une mère qui n'est pas toujours ouverte à la discussion, il m'a bien fallu, je dirais, 6-7 ans.
Ah oui, quand
bien
même. Oui, quand même.
Digérer. Pour pas, parce que maintenant elle ne comprend pas bien mon alcoolisme, elle se voile face à ça, elle ne comprend pas. Pour elle, rentrer à l'hôpital pour alcoolisme, c'est on vous donne un médicament, l'alcool est arrêté, le médicament de substitution est là, et ensuite quand le médicament est arrêté, on sort et on est réparé. Donc, alors que c'est tout un travail psychologique à faire au sein de l'hôpital et de réflexion qui ne prend plus de temps qu'un médicament.
Elisabeth, je vais être obligée de vous embrasser, enfin de vous quitter, je vous embrasse.
Bien sûr.
Et parce que c'est l'heure des informations. Et il y a Victor Pourchet et ses fameuses bouteilles d'eau Sciences Po qui viennent de rentrer dans le studio.